Mais c'est quoi? Qu'est-ce que c'est France Inter là? Qu'est-ce que c'est cette radio là? Mais qu'est-ce que c'est devenu? Lâche France Inter, viens chez moi, dans ma case c'est assez grand, on fait un petit truc toi et moi, une petite émission, pépère avec une petite binouze, un petit bédo, tranquille. On fera les animateurs, les techniciens, on fait ça à l'arrache, moi je te fais les petits jingles, flight number two. Ok Daniel, lâche France Inter et viens dans ma cave mec. Vas-y Daniel! Bon allez, c'était Walid, ciao. Blair.
Oui, bonjour, c'est Christine dans l'Aude. Je vous informe que Monsanto sera du mauvais côté de la barre au tribunal de Carcassonne le mercredi 20 septembre prochain. Une journée festive et de réflexion se tiendra Square André Chénier en face de la gare de 10h à 22h à cette occasion. Il y aura des débats avec Monsieur Génard puis Monsieur Jacquard, de la bonne bouffe, de la bonne musique. Normalement à 19h, si on arrive à tenir les horaires, un meeting avec les témoins au procès, Monsieur Onesta, député vert européen, Monsieur Berland, chercheur à l'INRA, et Monsieur Cosco, qui est un agriculteur bio qui a été victime d'une contamination OGM dans sa récolte, une contamination dite accidentelle. Donc voilà, vous venez nombreux à Carcassonne faire sa fête à Monsanto, parce que pour une fois, c'est pas les petits qui sont au tribunal, c'est le gros.
Ouais, bonjour Daniel, c'est Serge Lebas, Montpellier. Je viens de lire mon diplôme de ce mois-ci et je lis pas cesse qu'une commission parlementaire américaine a relevé 237 mensonges officiels. Un pour déclencher la guerre en Irak et deux pour la justifier. Bien sûr, ces 237 mensonges officiels ont été faits par Bush et toute son équipe. Et j'ai entendu ces derniers jours que notre cher Nicolas Sarkozy avait comme modèle les États-Unis. J'ai peur quand même, hein. Enfin, on sait ce qu'on votera. Allez, au revoir.
Bonjour, c'est le repère aujourd'hui encore du bateau ivre, donc l'île de Groix, à 21h ce soir à Lockmeyer-Plage. Au revoir.
Bonjour, vous avez oublié de parler des petits cimetières de famille qu'il y a dans les Cévennes. Ça, c'est bien de se faire enterrer dans son jardin. Ces cimetières ne peuvent pas être vendus. Si on vend la propriété, les descendants du premier propriétaire ont le droit à l'accès à ces cimetières jusqu'à la fin de leur jour. Jusqu'à la nuit des temps, plutôt. Hein. Quant à moi, mon rêve, ça serait de me faire exploser. Parce que j'ai peur de mourir étouffée et j'ai peur d'être brûlée. Voilà, allez, au revoir.
Ben voilà, beau rêve, le rêve de se faire exploser. Suite au reportage d'hier de Nila Tebi, votre tombe, vous la voulez où? Voilà, quelques réactions sur le répondeur de la basse JCU au 01 56 40 37 37. Pour finir cette semaine, on va aller se balader avec Pascal Pascariello, mais pas n'importe où, bien évidemment. On va refaire le chemin de l'école. N'importe qui peut faire ça. Tout le monde a eu un chemin pour aller à l'école, à pied, à cheval, en voiture, en car scolaire, comme vous voulez. On a tous connu ce moment où on part de la maison, puis on va à l'école, et puis on revient aussi, parfois le midi, quand il n'y a pas de cantine, selon les endroits. Et on a refait ce parcours avec deux personnes, avec Régine et Angelo, quelque part en Bourgogne, non loin du Creusot. Voilà, c'est ce petit chemin qu'on va faire ensemble, et qui évidemment, à chaque pas, soulève des souvenirs, des mémoires, des nostalgies et tout un monde aboli à jamais, mais qui nous regarde toujours, qui est celui des aînés, des grands-parents. C'est tout de suite après les messages que voici, que vous avez laissés dans la boîte vocale de la Basse JCU au 01 56 40 37 37.
Bonjour la Basse JCU, je suis très énervée. Je viens d'entendre que la France était menacée par des terroristes. On a notre cher ministre de l'Intérieur qui fait donc campagne à l'américaine. Qui rentre de voir Monsieur Bush, et il a donc reçu des conseils comment terroriser son peuple pour se faire élire. C'est dégueulasse, quoi. J'espère qu'il y a un journaliste qui va entendre, qui va réagir, qui va faire des papiers pour pas que les pauvres gens qui font pas les relations entre les infos se fassent couillonner et qu'on se retrouve avec un bon petit Sarkozy au pouvoir. Voilà. Eh ben, bonne émission. À bientôt.
Alors, qu'est-ce que je viens d'apprendre? Libé en appelle à ses lecteurs pour les soutenir. Ben alors là, ça me fait rire. Qu'ils en appellent à leurs actionnaires. Je comprends, parce qu'il y en a encore. Mais des lecteuses. Non, mais moi, on va remettre les choses à leur place. Moi, à vrai dire, je suis très content que Libé soit moribond. Franchement, parce que moi, j'ai grandi. Mes parents, c'est des 68ards. Alors, c'est très simple. Dans les années 70, moi, je me souviens qu'il y avait des campagnes de soutien, des trucs, des concerts de soutien, des machins, pour Libé. Mes parents, ils soutenaient ça à mort. Évidemment, ils y croyaient. Il y avait des tas de chanteurs connus, comme Jacques Higelin, les Trianes, Fontéval, Renaud, et des intellectuels qui soutenaient ce journal, des gens qui croyaient vraiment qu'ils pourraient changer les choses et qu'ils avaient enfin leur journal, comme porte-parole. Et puis dans les années 80, c'était la grosse enculade. C'est pas compliqué, parce que moi je suis même un témoin de ça. À Lyon, il y avait un journal qui s'appelait Lyon Libération, Lyon Libé, voilà. Et je fais partie de la génération anti-Devaquet, et je me souviens être allé dans leur bureau en tant que délégation d'un comité de grévistes, et ils m'ont expliqué, Lyon Libération, que de toute façon, il fallait qu'on vive avec son temps, que l'autonomie des facs telle qu'elle était prônée par Chirac et Devaquet, c'était bien, et qu'il fallait s'ouvrir au marché, qu'il fallait vivre avec son époque, etc., etc. Ils ont encensé Tapie, on connaît la suite, hein. La guerre du Golfe, ils ont fermé leur gueule, et puis maintenant, ils voudraient qu'on les pleure. Ben, non, moi qui crève, mais qui crève la gueule ouverte, quoi. Je veux dire, mais franchement, on sait qu'ils ont plus de lecteurs, mais qu'ils arrêtent de vendre, et puis qu'ils restent un souvenir, qu'ils se foutent au musée Grévin. Serge Julie au musée Grévin, voilà. Voilà, franchement, je préfère encore lire Le Figaro, parce que, comme on dit, on préfère l'original à la copie. Alors, ça suffit.
Daniel, je reçois ton email avec le résumé des émissions de la semaine tous les vendredis soir, je crois bien. J'écoute les émissions sans exception et j'écoute maintenant même plus que j'écoutais 17 heures avant. Et puis, c'est un régal.
Pour les écoliers de France, la rentrée a ramené cependant des plaisirs qu'on n'éprouve qu'à cet âge. Plaisir du tablier neuf, plaisir des chaussures neuves, où l'on se sent devenir un grand personnage. Plaisir aussi des éventaires et des nouveaux livres dont l'odeur, cette odeur de papier neuf, fait oublier qu'il faudra apprendre tout ce qu'ils contiennent, des livres qu'on couvrira avec amour. Et ce sont, n'est-il pas vrai, toutes ces choses neuves qui nous faisaient aimer, malgré tout, le jour de la rentrée.
Salut, c'est Daniel Mermet, là-bas j'y suis avec Pascal Le Pascariello, Régine et Angelo. Retourne à l'école.
Flight number 2.
Non, je prends pas ma canne, je m'appuierai sur ton épaule. Non, non, non.
Si tu lâches, t'attends.
Puis on va essayer de retrouver un petit chemin par là, mais...
Parce que là, le chemin pour l'école, il est pas...
Eh bien, théoriquement, il montait là, et on faisait le trajet à pied. Et au début, on emmenait une petite gamelle avec des pattes dedans, ou je sais pas quoi, pas grand-chose.
Et vous le faisiez accompagné de votre...
Eh bien, on avait déjà... Non, 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 c'était toujours les enfants du village, les plus âgés, qui chaperonnaient les autres. Hein. Jamais nos parents nous ont accompagnés à l'école, non, non, non. Et puis, on emmenait nos gamelles, qu'on faisait chauffer sur le poêle de la classe. Et après, il y a eu une cantine.
Parce que vous mangez quoi? Vous en rappelez? Ou c'était pas...
Oh ben du pain, du chocolat, oui. Jamais de gâteau.
Imaginez, un jour vous rencontrez l'enfant que vous étiez. Au coin d'une rue, ou dans le métro, ou sur un chemin perdu, vous croisez un enfant qui vous rappelle quelque chose. Eh oui, c'est vous. C'est bien vous. Il y a 10 ans, ou 20 ans, ou même plus, si affinité. Mais y aurait-il affinité? Ou bien êtes-vous devenu complètement étranger? Toujours le même? T'as pas changé? Comment savoir ce que vous diriez? Et lui, l'enfant, qu'est-ce qu'il vous dirait? L'enfant que vous étiez, lui qui voulait devenir pompier, aviateur, docteur ou maîtresse d'école. Et vous que voilà là, avec ce tas d'années, cet empattement du temps et ce blanc des tempes, comment savoir ce qui se passerait et ce qui se dirait? Comment savoir? Eh bien, c'est possible. Il suffit de reprendre le chemin de l'école, refaire le chemin de l'école. Tout le monde en a un, chacun se souvient, à pied, en vélo, avec le car scolaire, comme je disais, à cheval, en voiture, et même en pirogue. À Maripasoula, en Guyane, souvenez-vous, chaque matin, la pirogue scolaire ramasse les enfants noirs, les enfants indiens, tout aussi français que les petits gaulois ou les petits brésiliens, dont les papas sont chercheurs d'or et les mamans font le tapin. Mais juste un peu, juste assez pour acheter des cahiers, justement, et un cartable, et des chaussures pour le chemin de l'école où chacun se souvient. Chacun en a un. Il suffit de le refaire un beau matin, partir exactement de la maison, remettre vos pas dans les pas de naguère, et la mémoire alors fait surgir des images du passé, comme les sauterelles quand on marche dans un pré, des sauterelles, des papillons, des rainettes, comme dans la chanson, mais aussi des foutus quarts d'heure, des baffes, des punitions, des amours contrariés avec la fille du Viniprix, la crâneuse. Et chemin faisant, voici que revient le monde d'hier. Emmenez-y vos enfants, vos petits-enfants. C'est un voyage pas cher, et là, c'est vous le patrimoine pour le coup. Je me souviens, l'encre, les plumiers, les buvards, le pain, le chocolat, le sac de billes et les moufles en peau de lapin. C'est vous le monument historique. Le cheval du grainetier, l'odeur du grésil à la fin du marché, le refrain à la TSF. Il y a l'aller, puis il y a le retour. C'est pas la même chose, l'aller et le retour. Et puis les saisons, les reines Claude volées, la boule de neige dans les carreaux du directeur, l'encre de Chine dans l'eau du bénitier. Alors on s'attendrit, alors on s'invente, alors on oublie. Un souvenir soudain vous prend par le col. Suspendu, un instant, Jacqueline, dont vous êtes sûr d'avoir vu les nattes dans le reflet d'une vitrine. Briantine, Roja, la reine des Briantines. Voilà, c'est ça, revenir sur le chemin de l'école. Et c'est ce qu'on a fait, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui jusqu'à 16h, dans la base si j'y suis, avec Régine et Angelo, accompagnés par Pascal Le Pascariello.
De l'école, nous avons rencontré un grand chemin de fer qui nous a emmenés tout autour de la terre dans un wagon doré. Tout autour de la terre, nous avons rencontré la mer qui se promenait avec tous ses coquillages, ses îles parfumées et puis ses beaux naufrages et ses saumons fumés. Au-dessus de la mer, nous avons rencontré la lune et les étoiles sur un bateau à voile.
Trois mousquetaires des cinq doigts de la main, tournant la manivelle d'un petit sous-marin, plongeant au fond des mers pour chercher des oursins. Revenant sur la terre, nous avons rencontré sur la voie de chemin de fer une maison qui fuyait tout autour de la terre, fuyait tout autour de la mer, fuyait devant l'hiver qui voulait l'attraper. Mais nous, sur notre chemin de fer, on s'est mis à rouler derrière l'hiver et on l'a écrasé et la maison s'est arrêtée et le printemps nous a salués. C'était lui le garde-barrière, puis il nous a bien remerciés. Et toutes les fleurs de la terre soudain se sont mises à pousser, pousser à tort et à travers, sur la voie du chemin de fer qui ne voulait plus avancer, de peur de les abîmer.
Alors on est revenu à pied, tout autour de la terre.
Soleil, de la lune et d'air.
pied, à cheval, en voiture et en bateau à voile.
Oui, oui, on va essayer de monter là. Mais...
Bon, ça va être difficile.
Ouais, c'est possible, hein. Ouais, parce que je sais qu'il y avait un chemin. La nature ayant repoussé droit.
Allez-y, je vous suis. C'est sur le chemin de l'école en pleine forêt.
Je vais dire à mon chirurgien que la prothèse est efficace.
Tente ta main.
Faites attention.
Ouais, ça, aux fameuses orties.
Ah, c'est les fameuses orties que votre papa vous...
Elle est traumatisée à vie, les orties qu'elle envoie.
Faites attention, Régine. Donc votre chemin pour aller à l'école,
il n'était pas, enfin, c'était pas celui-ci tout à fait, c'était de l'autre côté, mais comme il est englobé dans la propriété privée, oui.
On va le contourner. Et ça faisait combien de kilomètres ?
Ben 3,5 km si on prenait ce raccourci là. Et puis s'il pleuvait, on pouvait pas passer par ces petits chemins là. Donc on faisait un tour par la route et là ça faisait 4 km. Et on partait à peu près à 8 heures, hein, Angelo, pour 9 h moins le quart.
Quelle
heure ? 8 heures du matin, oui.
Pour être à l'école, à
9 h moins le quart. Je me souviens d'un petit garçon qui s'appelait Jackie Monod, avec qui j'avais dansé à une fête des écoles. Et quand je lui avais donné la main, il était tout bouclé, tout frisé. Il est mort depuis. Et c'était vraiment quelque chose, quoi. Parce qu'on était chacun dans une école et on se retrouvait pour la fête des écoles au mois de juin.
Nous, à ce moment-là, les Italiens étaient très mal vus. C'était l'Italie, c'était macaroni, tout ce qu'on veut. Hein. Et dans la cour de l'école, très souvent, j'étais seul contre tous. Hein, dans certaines écoles, hein. Il y avait 5 ou 6 garçons qui venaient, qui nous tapaient dessus, avec moi, mon frère. Il y en avait quelques-uns qui venaient nous défendre, mais pas tellement, quoi. Les gens, ils n'osaient pas.
Les gens n'osaient pas.
Non, les autres n'osaient pas trop nous défendre.
Et est-ce que vous avez vu qu'il y avait aussi du racisme contre votre père?
Aussi, d'ailleurs, certains, comme partout, hein, il y avait des gens qui disaient, tiens, les Italiens qui viennent manger le pain des Français, donc, ouais.
Et quand on se balade avec ses parents ou avec son papa et qu'on entend ces mots-là?
C'est dur, c'est très difficile à supporter, ouais. Parce que bon, bah, si on est là, c'est parce que, on a besoin de faire sa vie, on a besoin de manger, on a besoin d'aller de l'avant. Et c'est pas pour faire n'importe quoi. Hein, bon, c'est vrai que d'un autre côté, pour nous c'était plus facile parce qu'on travaillait. On avait du travail. Pour ceux qui n'ont pas de travail aujourd'hui, c'est quand même plus compliqué.
À gauche là-bas, non ?
On va essayer. On arrive avec au milieu des vaches dans le pré.
Je sais pas si on pourra accéder au chemin, non ? Si ?
Ah, ben voilà, on y arrive.
On y arrive.
Voilà, Angelo. Angelo, il a déjà dit pas mal de choses sur lui. C'était un Ital, un macaroni. Je mets ça avec des guillemets. Voilà, à l'époque, il y avait une ségrégation, un racisme envers ces Italiens qui venaient bouffer le pain des Français, comme on disait, et qui venaient travailler, tout simplement. Et puis, Régine, qui sont restés amis, tous les deux, elle était institutrice. Et voilà, on a eu l'idée, avec Pascariello, de reprendre le chemin de l'école, de refaire le chemin des écoliers avec ces deux personnes. Et pourquoi eux? Bah, c'était presque au hasard. On a cherché un peu. Après tout, ça pourrait être n'importe qui, parce que le chemin de l'école, bah, on en a tous fait un. Là, simplement, le jeu, c'est de le refaire. Alors, on en a tous un, on se souvient. Il y a plein de souvenirs qui sont en train de se réveiller partout en écoutant ces voix. Mais bien évidemment qu'après, il y a des histoires singulières qui appartiennent à chacun, et c'est ça qui nous intéresse aussi. Où on est? On est à Couche. Ça vous dit quelque chose? On est à 4 km de Couche. Le hameau de Combereau. Et ça, c'est pas loin du Creusot. Et ça, le Creusot, eh ben, c'est la Bourgogne. Et le Creusot, c'est Schneider. Et c'est-à-dire une immense usine métallurgique, vous le savez, qui produisait des locomotives, des rails, des tas de choses, des canons, des blindages, etc. C'est une énorme usine dans laquelle Angelo a travaillé. C'est tout ça qu'ils vont nous raconter chemin faisant.
Asseyez-vous peut-être tous les deux sur le banc.
Moi, je préfère l'ombre.
Les deux anciens élèves, l'un à côté de l'autre, comme sur un banc d'école.
Moi, j'ai 67 ans. Je suis à la retraite et j'ai été institutrice aussi. Ça a été mon vœu depuis que j'étais petite. Hein. C'était d'être institutrice, m'occuper d'enfants.
Et moi, j'ai deux ans de moins, 65. Je suis le cadet.
Et vous, Angelo, vous êtes aussi à la retraite?
Oui, je suis à la retraite depuis 5 ans. Alors moi, c'est un autre parcours. Hein. Donc, bien entendu, en arrivant en France à 11h, à 11h30, c'était difficile de faire des études.
Aussi, vous venez d'Italie, hein?
Je venais d'Italie du Sud.
D'où d'Italie du Sud?
La Calabre, le pays des gangsters, de la mafia.
Tous les deux, vous êtes des amis d'enfance?
Ah oui, parce qu'on habitait le même village, surtout. Hein. Moi, quand j'ai atterri dans le village qui est à quelques centaines de mètres d'ici, qui s'appelle Combro, eh bien, mes proches voisins, c'était la famille Brun. Et comme il y avait des enfants, des jeunes, Régine et ses frères, et donc c'était un petit peu les jeunes que j'ai rencontrés en premier.
On passait un grand moment à jouer, surtout toi avec mes frères. Hein. Oui, moi, j'étais plus raisonnable.
Et ça remonte à combien d'années?
Ouais, eh bien, plus de 50 ans.
Plus de 50 ans.
Plus de 50 ans.
Voilà, moi c'était voilà. 11 ans et demi quand je suis rentré à l'école, c'était en décembre 52. Donc bon, ben, je suis allé à l'école à 11 ans et demi, j'ai commencé à l'école primaire avec des enfants de 6 ans. Mais ça a pas trop mal été, oui.
Et vous, Angelo, à la sortie de l'école, vous avez été après tourneur sur métaux.
Disons que le niveau que j'avais scolaire me permettait d'accéder à des métiers de tourneur, fraiseur, et j'ai eu mon CAP de tourneur, et ensuite, moi, je suis rentré à l'usine Schneider, où travaillait mon père déjà, d'ailleurs. Lui, il était simple manœuvre et il a eu des difficultés énormes pour élever la famille. On était 5 enfants. Alors que moi, bon, ben, quand j'ai commencé à travailler, je gagnais déjà plus que lui en tant que professionnel, et donc il était assez content. D'ailleurs, les premières années, avant que je me marie, j'aidais ma famille, j'apportais mon salaire à la maison, et je me suis marié assez jeune pour pouvoir fonder un foyer et puis décider de mon propre sort. Mon père est venu en 1948, il est venu travailler en France parce que sur le Creusot, c'était l'usine Schneider qui prédominait au point de vue industrie, et donc on demandait des ouvriers dans cette entreprise, et mon père est venu travailler en 48, et étant donné que ça fonctionnait bien tout ça, il a souhaité faire venir sa famille, et donc en 52 il est venu nous chercher pour nous amener en France. Voilà, et c'est comme ça.
Et tous les travaux durs chez Schneider, c'est-à-dire la fonderie, tout ce qu'il y avait de très pénible, c'était confié aux ouvriers immigrés, c'est-à-dire aux Polonais qui sont venus avant et aux Italiens.
Malgré tout, économiquement, c'était quand même assez intéressant.
Et puis après, quand son père rentrait de l'usine par le car qui transportait les ouvriers, après il allait défricher des lopins de terre pour faire du jardin et faire vivre la famille.
Au pied des Alpes, sur le versant italien, la ville d'Oste et sa vallée posent un problème. Dans ce pays où les noms, la langue, les mœurs, les aspirations sont françaises, il ne semble pas que l'octroi par l'Italie d'une sorte d'autonomie dans le cadre italien ait satisfait les 100 000 Valdotins. Les Valdotins respirent mal et ils partent vers la France. Chaque jour, des groupes s'enfoncent vers la montagne, ils émigrent. Ils vont chercher en France une vie plus compatible avec leurs goûts et leurs aspirations. En dépit des dangers que représente actuellement cette aventure, car il y a la distance, la montagne et la neige, les reporters des actualités françaises ont réussi dans des conditions dramatiques à filmer d'Ost en France la traversée d'une dizaine de ces émigrants, parmi lesquels se trouvaient 3 enfants. Par une tempête de neige, une partie du groupe put se réfugier à l'hospice du Petit Saint-Bernard et gagner le lendemain le versant français. Hélas, l'un des émigrants perdus dans la tourmente trouva la mort dans un champ de neige. Ce fut derrière le groupe désuni un cadavre qu'on ramena en terre française, un cadavre que les frontaliers accueillirent avec la grande piété simple des âmes primitives. Pourquoi des hommes fuient-ils leur pays? Pourquoi des hommes peuvent-ils mourir sur une route?
La grande piété des âmes primitives, dit le commentaire de ce document qui date de 1946. Là, il s'agissait simplement de passer d'Italie en France. C'était pas encore les Canaries, c'était pas encore les frontières entre le Sahara et le Maghreb, mais c'était déjà la migration, l'émigration. Et Angelo, ben voilà, c'est ce qu'il a vécu. Voilà des souvenirs, des images qui reviennent pour peu qu'on refasse ce chemin de l'école, mais qu'on le fasse vraiment pas en imagination, mais qu'on aille le faire physiquement. Vous pouvez le faire hein, si ça vous tente, mais il faut le faire. Il faut repartir de la maison et puis voilà, on marche et puis pour peu qu'on ait quelqu'un de qui soit attentif à ce que à ce qu'on raconte, aux souvenirs qui se réveille, chemin faisant, et ben voilà, ça peut aller très loin, et on devient comme ça, sans l'avoir vraiment voulu, un témoin d'une histoire et d'un monde.
Donc voilà, là, Régine, c'est votre maison d'enfance. Mais
elle ne ressemblait pas à ça. C'est une très vieille maison où on avait peu de pièces, en fait. Hein. Ici, il y avait une toute petite cuisine.
C'est-à-dire sur la droite, il y avait une petite
cuisine. Là où vous voyez la branche de vigne qui bouge, là, c'était ce qu'on appelait la pièce l'évier, parce qu'il y avait l'évier. On vivait dans une seule grande pièce ici, et on avait deux chambres, c'est-à-dire une chambre pour mes parents, et une autre chambre pour les trois enfants. Il y avait, les rosiers n'étaient pas là. C'est mon père qui avait planté le pied de vigne, par contre. Hein.
Le pied de vigne qui grimpe sur la maison.
Oui. Là, c'était un tas de pierres. On appelait ça le tas
de pierres. Sur la droite, le tas de pierres qui est en dessous des arbres. Et ces arbres, c'est quoi, ces grands arbres immenses?
Ce sont des frênes.
Des frênes?
Oui.
Et donc, le matin, qui est-ce qui se réveillait en premier chez vous, Régine?
Oh, c'était mon père. Ah oui, c'était mon père qui nous appelait pour aller à l'école. On devait mettre un certain temps à se réveiller. Et la chambre de mes parents communiquait, je me suis toujours demandé l'intimité qu'ils avaient pu avoir. Hein. On n'avait pas de salle de bain, on n'avait pas de toilette à l'intérieur. De temps en temps, quand on était petit, on mettait un grand baquet dehors pour que l'eau chauffe. Et ma mère nous lavait dans le baquet, là devant la maison.
Salle de bain principale, hein.
Non. Et puis ici, c'était l'écurie des vaches. On avait deux vaches.
Au bout de la maison ?
Voilà, là. Oui. Et donc, les vaches étaient là. Il y avait des lapins aussi. Ce qu'on a eu aussi comme punition, c'était quand on se battait avec mes frères, enfermés dans des cabanes à lapins, chacun dans une cabane. Alors je disais à mon père, t'es pire que Louis XI, qui enfermait ses ennemis dans des cages. Mais comme ça, on se battait plus. Hein. Non, on n'y restait pas des heures.
Et votre père, donc, était ouvrier et vous aviez
quand
même aussi...
Et mon père, en fait, était ardéchois. Enfin, c'est pas un métier, mais c'est un statut. Et il était venu ici en Bourgogne parce que quand il avait eu 18 ans, il avait eu une pleurésie. Et on l'avait envoyé dans un sanatorium à 3 kilomètres d'ici. Et puis après, comme mon papa était ébéniste de métier, on l'a gardé au centre. Et puis, ben, il a rencontré, au fil des années, il a rencontré ma mère, qui était bourguignonne, et voilà.
Et qui, elle, venait d'une famille...
Très pauvre. Et quand elle avait 14 ans, elle a été envoyée dans cette maison ici, qui appartenait à un couple assez aisé, mais qui venait de perdre leurs deux fils à la guerre de 14. Et ma mère est restée là pendant quasiment 20 ans, comme jeune fille et dame de compagnie, si vous voulez. Donc, elle a appris à broder, elle a appris à être triste. J'avais un père qui était très sévère, mais qui il voulait que ses enfants fassent des études, quoi. Moi, en particulier, je voulais plaire à mon père parce que je savais qu'il se sacrifiait pour nous. C'était quelqu'un de très gai, il chantait en tirant les vaches, et les gens disaient, dis donc, les vaches du Brun, elles doivent avoir du lait parce que... La Paloma, déjà, il chantait toujours La Paloma.
Je connais pas cette chanson.
Le plus beau. De... Ah, non, ça, ça c'était le plus beau de tous les tangos du monde.
Ah, bah oui, la certaine chose.
Le plus beau de tous les tangos du monde, c'est celui que j'ai dansé dans vos bras.
Dans vos bras, pardon.
J'ai connu d'autres tangos à la ronde, mais il avait l'accent ardéchois. Mais mon cœur n'oubliera pas celui-là.
Ah oui, ouais, tu te rappelles mieux des.
Et on était tout le temps, on connaissait toutes les chansons,
ah oui,
parce que mon père chantait tout le temps. Et puis, ben voilà, la vie passe. Et puis après, moi, je suis partie à l'école normale. Et puis, j'étais instite. Mais grâce à mon père, quoi. Et mon père est mort en 80. Hein. Ça fait longtemps. Mais bon, c'est comme ça. On est un peu bête. Voilà.
Qu'en reste-t-il de nos amours? Qu'en reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Qu'en reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Mon orphanie, cheveux au vent, baisers volés, rêves mouvants, qu'en reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon.
Voilà, on partait à l'école par là. Là, c'était le Cognacy, il existait déjà.
Et il y avait une haie qui avait disparu, là.
Vous vous en rappelez de votre première rencontre à tous les deux?
Non, non, moi, ce que je me souviens, c'est que vous étiez toujours très bien habillés, toujours des chemises blanches, assez si. Vous n'aviez pas grand-chose, mais vous étiez toujours vêtus de façon impeccable.
Ah bon?
Ah oui, oui, si.
Oui, mais ça doit être peut-être certainement un peu de jours après qu'on est arrivé ici. Hein. Et puis bon, les premières personnes que j'ai vues, c'est surtout son jeune frère.
Puis il faut dire que dans le village, il y avait au moins 4 familles d'Italiens. Hein. Il y a eu les Talarico, il y a eu les Martinicchio, il n'y a pas eu des Visi aussi.
D'autres que je m'en...
Et donc on était habitués à jouer toujours avec des Rital. Hein.
Oui, voilà.
Et plus tard, à danser avec des Rital.
Ben, oui, mais c'est vrai que c'était des bons danseurs, par contre. Hein. Les Italiens étaient des bons danseurs quand ils allaient au bal. Et d'ailleurs, souvent, ça déclenchait des bagarres en Closo parce que les filles allaient danser avec les Italiens et puis les Français n'aimaient pas beaucoup. Quoi.
Oui, oui.
Et c'est vrai.
Mais tous
que...
les deux, vous avez. Non.
Ah non,
vous
n'avez
jamais eu
d'histoire
d'amour.
Dansé. Non, non.
Vous avez jamais
pas. Non, non. Oh, on s'aimait bien quand on était jeunes, mais
oui,
bon.
Voilà,
quand même,
on
vous êtes mieux bien.
Ah oui, oui, on s'aimait bien.
On aurait fait des étincelles si on s'était mariés ensemble.
On avait des caractères très durs l'un et l'autre.
Oui.
Non, mais moi j'étais le petit Vital et j'étais beaucoup plus jeune et inculte et tout ça. Je ne pouvais pas non plus avoir.
Espérer avant une.
Non, voilà. Elle s'est plus servie de moi comme élève. Elle a fait ses premières classes avec moi.
Ah oui, il fallait tout le temps.
Elle était contente quand j'étais là-bas et que je disais, tiens, ben, j'ai un truc à faire et tout ça. Tout de suite, elle était disponible. Hein. Tout de suite, elle s'installait, puis alors, elle jouait vraiment le rôle d'enseignante. Hein.
Mais, non, on m'a toujours confié des tâches. Et un jour où mon père est venu me chercher à l'école à couche, parce que j'étais en retenue, la seule fois de ma vie, et il a dit à la maîtresse, elle ne saurait pas me tricoter une paire de chaussettes. Et moi, pour prouver à mon père, ma grand-mère m'a appris, quand j'avais 8 ans, avec 5 aiguilles, en fer, à tricoter une paire de chaussettes à mon père. Et j'y suis arrivée. Non, mais c'était...
Oui,
c'est
oui.
Des choses qu'on... Je sais pas, enfin, c'est peut-être trop. Parce que pour la construction, après, c'est peut-être trop, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est peut-être pas assez, après, armé pour se défendre et tout ça, quand on veut toujours être gentil et faire plaisir. Hein. Non, mais quelle impression ça vous fait? Des souvenirs et une vie telle qu'on a pu avoir, vous, jeune.
Ah.
qu'est-ce que vous en pensez? On a l'impression que c'est pas si souvent que Régine et Angelo ont l'occasion de raconter leur histoire, leur vie. Je sais pas, peut-être qu'ils ont aussi, mais on voit bien qu'ils hésitent, on voit bien qu'il y a des souvenirs qui reviennent là, qui ne reviennent pas si souvent, hein. Parce que, ben voilà, on est en chemin vers leur école. Ça faisait 4 kilomètres par un certain chemin, mais si en prenant à travers champs, c'est ce qu'on est en train de faire, là où il y a les vaches, ben ça faisait 3 kilomètres et demi. Aller et retour, c'est quand même pas mal, hein, pour des gamins. C'était fréquent en France, il y avait des chemins bien plus longs, hein, pour aller à l'école. Tout le monde se souvient de ces histoires-là, mais là on les vit et il y a plein de branches qui se sur lesquelles on peut aller comme ça et on revient et voilà, c'est la vie, c'est le destin, des destins français et des destins italiens.
C'est bon, ça.
Qu'est-ce que je vous dis alors sur ce chemin de l'école?
On allait vite le matin.
Vous y allez vite le matin?
Et puis le soir. Par exemple, en hiver, si on trouvait un talus bien en pente, on faisait tous nos portraits dans la neige. Hein, tu te souviens?
Oui.
Aller marauder des fruits, marauder des cerises, parce qu'il y avait certains cerisiers. Et un jour, mon frère a commencé à monter dans l'arbre et le propriétaire était en haut. Alors là, on détalait. Et puis bon, on n'allait pas vite, quoi. On fait comme on fait maintenant, hein. On était libre. Mais bon, sauf si des tâches nous attendaient à l'arrivée. Donc en été, on devait rentrer un peu plus vite qu'en hiver.
Il y en avait plus en été qu'en hiver?
Oui, bien sûr. Enfin, en hiver, il y avait le sarment à casser pour allumer le feu. Et puis, ou aller à l'herbe au lapin, ou, hein. Tu te souviens, t'as jamais fait ça, toi?
Non, si, après, là, parce qu'après, nous aussi, on a eu une chèvre. Après, on avait des lapins, chèvres, tout ça. Quelques poules également, oui.
Et Angelo et Régine, quel enfant vous étiez à cette époque-là?
Moi?
Angelo.
Bon, je sais pas, peut-être un enfant tout à fait normal, curieux d'apprendre, curieux de découvrir des choses, apprendre au plus vite le français déjà, vaincre le plus vite possible la misère, parce que c'était quand même une vie dure, rude, difficile.
Et moi j'étais sérieuse mais rebelle.
Rebelle,
hein. Rebelle.
Ah oui. J'avais un père sévère, mais il fallait toujours que je lui réplique, même si ça me valait des confirmations, comme il disait.
Des confirmations?
Oui.
C'est des petites gifles, c'est ça?
Pas des petites, non, des gifles. Je trouve que ce qui est important dans l'individu, c'est de savoir se rebeller quand il faut, de pas toujours dire oui, enfin bref. Cet amour pour la liberté, hein.
Ce petit chemin qui sent la noisette, ce petit chemin va tourner la tête. J'ai posé trois baisers sur tes cheveux frisés et puis sur ta figure toute barbouillée de mûres pour nous surveiller. Des milliers de bêtes s'étaient rassemblées par-dessus nos têtes. Mais un lièvre au passage nous a dit soyez sages. Ne crains rien, prends ma main dans ce petit chemin. Ce petit chemin.
C'est un chemin très gourmand qu'on fait, hein, le chemin de l'école.
Sur le chemin, on trouvait des fois des fruits, pommiers ou poiriers. On mangeait des poires, des pêches, des pommes, bien sûr. Oui.
Et à cette époque-là, donc vous êtes habillée comment, Régine?
Des sabots, des bas, tenus par des espèces de jartelles,
en
élastique. Oh là, c'était terrible. Plus par-dessus des chaussettes, bien raccommodées.
parce qu'il fallait que ça dure.
On t'était pas trop mal habillée, toi, encore.
Tu parles, bah, c'est parce que tu m'as connue que j'étais grande, mais quand j'étais grande, petite, ouais. Y en a déjà qui avaient des brodequins, des chaussures en cuir, mais nous, on avait des sabots avec mon frère. Hein. Et que mon père nous remettait des brides, parce qu'il y avait des brides en cuir dessus. Et quelquefois, il nous mettait un peu de cuir en dessous. Mais un des plaisirs aussi, c'était quand on nous disait, bon ben, jeudi, on ira chez Bonabo et on t'achètera des sabots neufs.
Ah, les sabots neufs.
Et on choisissait des brides. Et le plus les brides étaient sculptées et belles, travaillées, le plus c'était cher, quoi.
C'était cher, oui. C'était des beaux sabots.
Alors, vous êtes devant votre école?
Lorsque je suis monté dans cette école-là, je commençais déjà à m'habituer. Donc, c'est pour ça, pour moi, c'est un souvenir, hein, parce que je changeais d'école. Hein, là, c'était l'école de filles. Moi, j'étais dans une autre école qui était plus dans le village. Et donc, je venais ici, c'était déjà les grands. Hein, c'était déjà les adolescents et tout ça, malgré que je l'étais déjà depuis un moment. Mais, venant ici, j'ai changé de statut.
Et vous jouez à quoi, par exemple? Dans la cour, puisque là on est devant la cour et c'est la récréation, vous jouez à quoi?
À la marelle, au mouchoir.
On joue aux billes. Moi j'ai connu même le jeu avant les billes, les boutons. Hein, on récupérait des boutons. Très souvent, quand on n'en avait plus, on arrachait ceux qu'on avait après la chemise ou le pantalon.
À quoi vous jouez?
Spécifique à l'intérieur de l'école. Vous jouez pas aux billes, par exemple?
Des fois, on joue à la marelle. Il y a trois marelles. Il y en a une sous le préau, il y en a une là et une là. On joue
à la balle aux prisonniers, non?
La balle aux prisonniers, non, parce que ça fait
partout. Des fois en sport, on y joue.
Puis c'est pas drôle une cour goudronnée. Hein, c'est pas drôle pour jouer.
Hein. Votre cour n'était pas goudronnée?
Non, c'était pas une cour goudronnée, il y avait des cailloux, c'était plus sauvage, quoi.
En tout cas, là, on a tous les enfants devant nous.
Quand on était petits comme vous, on allait dans la même école.
Ah,
oui, hein.
Très bon souvenir pour nous, hein. On est à l'école ici, oui, à votre place, quand on avait votre âge. Vous êtes tous de Couches, non? Vous habitez Couches?
Oui.
Et vous avez mangé à la cantine, là?
Non, merci.
Vous allez y aller?
Oui.
Au revoir, bon appétit.
D'avoir écrit un texte, on le lit à haute voix. T'es sourde.
J'ai trouvé.
Garde ici le passé.
Pour accommoder nos habits, il faut trouver.
Infinitif.
Trouver des sous pour acheter.
Infinitif.
Des boutons, des lacets, des bretelles, des ceintures, du fil, des aiguilles, tout le fourbi, quoi. Tout le monde est obligé.
Garde ici le passé.
De payer l'impôt 20 balles par semaine.
Oh, mais non, alors! Il me brûle!
Mais qu'est-ce que ça peut?
Là, c'était la cour de l'école, voyable. Oui. Le gymnase n'existait pas.
Alors, la maîtresse habitait là?
La maîtresse habitait ici, puis les classes étaient là. Et je me souviens, moi, quand la maîtresse me disait, par exemple, « Tiens, Régine, va porter ça chez ma mère. » Ah, j'adorais ça, tu vois, entrer dans la maison. Il me semblait que je sentais encore cette odeur. Ça.
C'était quoi, cette odeur?
Non, une odeur de fruits, plutôt.
Ah, moi, je trouve que ça sentait quand même assez...
Ça sentait quoi, pour vous?
Moi, pour moi, ça sentait un petit peu le vieux, l'humidité, le rance.
Moi, c'était fruité. C'était une bonne odeur. Mais vous vous rendez compte comment la classe était petite, là? Là, il y avait deux classes.
Donc, dans ce seul bâtiment, qui est le plus ancien, hein, de l'école.
Oui.
Parce que sinon, tous les autres bâtiments sont des bâtiments récents.
Voilà. Donc, en fait, le vieux bâtiment, voilà, où c'était. L'école, c'était là.
L'école, c'était là.
Oui.
Ça change?
Mais ça, c'est l'odeur.
Mais là, c'est le gosse scolaire.
De papier, de craie, de...
Bien sûr.
Ça, c'est la classe du CP, là.
Ah, ouais.
Comment vous le savez que c'est la classe du CP?
J'ai vu le livre, là. Cahier d'exercice CP.
Connaissance enseignante qui sort.
Ah oui, il y a quand même encore les craies, hein.
Oui, oui. La craie qui griffe.
D'ailleurs, contrairement à ce qu'on pourrait croire, en tant qu'étranger, je ne faisais pas beaucoup de fautes d'orthographe.
Vas-y, toi.
J'ai écrit comme dans l'ancien temps. Angelo. Une belle écriture, Régine. T'as une écriture d'enseignante, quand même. Hein. Par contre, moi, quand je vois une carte géographique, alors là, moi, je suis passionné.
Alors, là, on a la carte de la France. Et vous venez
d'ici, Catanzaro.
D'accord.
Je suis retourné deux fois en Calabre depuis 52. C'est pas beaucoup. C'est ma patrie, mais ma nouvelle patrie, c'est la France. Et je la considère comme ma patrie maintenant. Eh oui, ça existe encore, tu vois, hein, nos classes, hein, on a appris des choses.
50 ans, ça fait 50 ans qu'ils étaient dans cette école, l'un et l'autre, Régine et Angelo, et ils reviennent. Voilà, c'est le bout du chemin de l'école, c'est l'école, c'est la classe, c'est la craie, c'est l'écriture et le temps qui passe.
Donc là, c'est l'école, hein. Il y a encore écrit, c'est vraiment la vieille école.
Avec le préau vraiment typique.
Voilà, le préau, voyez,
hein, le vrai préau, on peut aller sous le préau. Hein.
Le préau d'origine, oui.
Et mes frères sont venus, mais moi, je suis pas moi.
Donc ça, c'est l'école des garçons. Des garçons.
Voilà, c'est là que j'ai fait la première année. Je suis arrivé, j'étais ici. Et je suis revenu ici après être passé par l'école de filles qu'on a vu tout à l'heure. Pour passer mon certificat d'études. Donc, j'ai fait la dernière année d'études pour le certificat d'études ici. C'est là mes premières rencontres avec les élèves français qui me traitaient de tous les noms et qui étaient méchants avec moi, mon frère ou les jeunes Italiens qui débarquaient. Voilà le préau, cet endroit-là. Donc, c'est un endroit de torture. Maintenant, regardez, avec tout ce qu'il y a, c'est pas beau non plus.
Est-ce que maintenant, il y a plein de ferrailles et de matériel entreposé?
Oui, puis regardez comme c'est beau, un préau comme ça, avec des arcades, on dirait un bâtiment très ancien, construit par les Romains. Pourtant, j'ai encore pas liquidé mes origines. Hein. Et je me demandais qu'est-ce que je faisais là. Mais là, les premiers temps, ça a été un petit peu un calvaire. Bon, ça n'a pas duré très longtemps, mais c'était quand même très difficile. Ouais. Premier étage.
C'est le premier étage?
J'étais là, à droite, avec Monsieur Giraud. J'étais au premier étage à droite avec Monsieur Giraud et c'était l'année du certificat d'études. J'ai peut-être eu la chance d'avoir un certificat d'études parce que bon, c'était quand même pas évident, deux ans et demi d'école en France, mais bon, c'est pas non plus un exploit, hein. Il y en a qui font beaucoup mieux. Je n'étais pas du tout surdoué, il faut pas non plus. J'ai eu des maîtres d'école qui ont été pour moi déterminants. Si j'avais pas eu ces maîtres d'école-là qui me laissent de côté en fond de classe en disant voilà, c'est un petit Italien, on va pas perdre notre temps avec lui. Non, ils n'ont pas fait ça. Ils m'ont écouté, ils m'ont fait parler. Ils ont tout fait pour moi, ils ont été tout pour moi. Monsieur Giraud, Monsieur Mazière, Madame Vince, tous, Madame Mademoiselle Moreau, ils ont tous été magnifiques pour moi. Mais ils auraient pu ne pas le faire. Ils n'auraient pu ne pas le faire. Et donc, moi, je ne peux me louer que de ce qu'ils ont fait. Parce que ça a été pour moi important et formidable. Ouais.
Vous voulez qu'on essaye de monter?
Allez-y.
Il y a encore les, comment ça s'appelle, les porte-manteaux, hein?
C'est large maintenant, les escaliers, non? Ça. Et je ne suis jamais monté dans l'école que j'ai quittée, dans la classe que j'ai quittée l'année de mon certificat d'études. Donc pour moi, c'est un pèlerinage. Ça fait 50... C'est en 54, il me semble, je suis à la 52, 54, oui, fin d'année scolaire 54, ouais. Ben, c'est ici.
Mais il y avait encore des... Alors là, il y a un...
Ça n'existait pas, ça.
Hein. Ah, d'accord. Ça, ils ont rajouté le...
Ah ouais, c'est venu après, ça.
Un lavabo pour se laver les mains au milieu.
Voilà. Moi, je pense que la dernière année, là, avant mon certificat, c'était là.
C'est
la quatrième, voilà, ouais. Elle est sauvée. Ah, ça, c'est vrai. Oui, c'était comme ça, ouais.
C'était la même salle, ouais. Oui. Alors revenir, ça fait plus de 50 ans après, hein. 50 ans, un demi-siècle, hein, plus d'un demi-siècle, hein. Important. Eh oui, c'est très émouvant, ouais. Ouais, certainement que ce professeur que j'avais beaucoup apprécié d'ailleurs, hein, qui était sévère d'ailleurs, hein, mais qui aimait ses écoliers, qui apprenait, qui faisait son travail d'une façon très très sérieuse, hein, et qui certainement croyait à ce qu'il faisait, hein. Eh bien, il ne doit plus exister maintenant. Je ne sais pas ce que sont eu ses enfants. Il avait des enfants, je m'en rappelle, ouais. Il habitait à côté, là.
Il habitait dans le bâtiment à côté,
dans le bâtiment à côté, ouais.
Qu'on voit par la fenêtre, parce que c'est des grandes fenêtres.
Voilà, oui, c'était ces fenêtres-là, toujours, ouais. Il me semble que c'était comme ça. Ouais. Donc, je devais être dans... Il me semble, si j'ai bonne mémoire, j'étais sur la rangée, quand on rentre sur la rangée de droite, en face, du côté des fenêtres. Eh oui, c'est vrai que c'est important, ouais. C'est très important. Non, puis là, il fallait travailler, c'était l'année du certificat d'études, il fallait apprendre, ouais.
A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, L, L, M, N, O, P, L, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, X, Y, Z.
Ils sont pas faits là, je vais. C'est vrai. Mais ça porte, ont changé, hein.
Non, c'est des portements
toujours. Ils étaient toujours, hein. Moi, il me semble qu'ils étaient encore, hein. Ça, c'était, ça existait déjà.
Oui. Et ça, regarde, c'est en fer. Ça avait été mis pour glisser l'étiquette.
Voilà. Là, on glissait l'étiquette avec notre nom et on mettait le portemanteau à côté, oui. Mm-hmm. Ouais. Ouais, bien sûr, hein. C'était la discipline, hein. Ouais.
Et vous aviez mis, vous, votre nom,
voilà, monsieur l'auteur. Voilà, oui. Bah, bien sûr, oui. Je ne sais pas marquer mon nom, parce que bon, c'est vrai que j'ai pas un nom ni un prénom qui pourrait être francisé finalement. D'ailleurs, lorsque ils ont mis en place un petit bus scolaire pour le ramassage, et il y avait une fille qui venait à l'école avec nous, puis un jour en montant dans le bus, bon, ben, moi je la laissais passer, puis elle m'a dit, bon, ben, passe devant, et puis elle s'est trompée, au lieu de m'appeler Angelo, elle m'appelait Anatole. Et puis c'est resté. Mais maintenant, à couche, quand vous parlez d'Angelo Tararico, ils disent « Anatole ». Voilà. Je rencontre des anciens copains que j'ai connus à cette époque-là, ils m'appellent Anatole. Alors bon, c'est vrai qu'Anatole, bon, c'est peut-être un petit peu plus français, mais c'est moins joli qu'Angelo. Hein.
Merci à Anatole, Angelo, Tallarico et à Régine Picard, Régine et Angelo, 50 ans plus tard, sur le chemin de l'école jusqu'à l'école. C'était un reportage de Pascal Pascariello. Toutes les informations sont disponibles sur le site de France Inter, la rubrique émission là-bas si j'y suis. Technique aujourd'hui, Claudine Lapersonne et Éric Morin. C'est Yann Chouquet et Koy Nguyen qui ont réalisé cette émission. Christophe Imbert s'occupe toujours du répondeur. Le numéro du répondeur, c'est le 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37. Et le mail de l'émission, c'est daniel.mermet@radiofrance.com.